Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui? Regardez votre voisin et posez-lui la question, comment va ton âme? Eh oui, on dit comment ça va? Ça va? Ça va, ça va bien, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Et en général, quand on vous pose la question, vous répondez, ça va. Même si ça va pas. Ah oui. Donc là, c'est précis, comment va ton âme? Ça va bien? Amen. Avec mon épouse Raphaël, on est très heureux d'être avec vous, de partager donc ces moments ensemble. Et vous avez les salutations donc d'un couple, premièrement. Sauveur et Marie-Jo, ça vous dit quelque chose? Si je dis Casano, ça vous dit autre chose, hein? Voilà, ils vous saluent bien. Vous avez les salutations des Vitrolais, Vitrolaises. Ouais, j'ai signé un contrat avec Vitrol. Ils m'ont dit, Laurent, tu reviens, c'est sûr. Oui, je fais juste une visite à Istres. Il faut que je sois prudent. Moi, c'est un peu réchauffé parce que je pense qu'on te l'a fait, c'est là. Hein? Donc, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui, de partager ces moments ensemble. Alors, qui sommes-nous? En fait, pour les plus anciens, je pense que nous nous connaissons. Quand je dis je pense, c'est que j'en suis sûr. Avec mon épouse, nous avons été plusieurs années en Arles, pays d'Arles, la Camargue. Hein, donc, pays du riz, pays du moustique. C'était une excellente préparation pour poursuivre 12 000 km plus loin, puisque nous avons été à peu près une vingtaine d'années donc en Asie du Sud-Est, et tout particulièrement au Vietnam. Et nous sommes rentrés, très intéressant, parce que de la Camargue, on est passé au pays du riz et des moustiques. Voilà, donc, on n'a pas trop été dépaysés. Hein. Bon, il a manqué les flamants roses, mais bon, on avait autre chose. Et on est rentré de mission le 5 juillet 2021 et nous avons pris donc le relais du couple pastoral qui était sur Vitrol. Donc depuis cette date, nous sommes Vitrolais, Vitrolaises. Voilà. Avec un restaurant vietnamien à 200 mètres de là où nous habitons. Ça, c'est précieux. Voilà, donc nous avons travaillé dans cette région d'Asie. Et j'ai le souvenir d'être venu, avant de quitter la France, d'être venu sur Istres et avoir parlé de cet appel et de ce départ. À l'époque, c'était Alain Trichard. Vous connaissez un petit peu, hein? Voilà, donc un jeune retraité. Donc, et c'est à son époque qu'on a eu l'occasion de venir à Istres. Et puis, on a même collaboré ensemble. Si je vous dis Saint-Martin-de-Crau, ça vous dit quelque chose? Voilà, donc Alain était le boss et moi j'étais l'assistant. Donc on participait, je me souviens, à Saint-Martin-de-Crau et c'était vraiment avec beaucoup de plaisir. Alors je suis très heureux de vous retrouver un peu plus de 20 ans plus tard. Vous avez remarqué, on n'a pas changé. Hein? Oui, on n'a pas changé. On est toujours les mêmes. Oh, bien sûr, l'extérieur a un peu changé. Bon, mais bon. Alors, on va ouvrir la Bible. Vous êtes d'accord? Alors, je sais qu'on ne vient plus à l'église avec sa Bible. Ben, moi, je fais partie des vieux. Donc, j'ai encore ma Bible papier. Voilà. Alors, je sais que beaucoup prêchent avec des tablettes, tout cela. Moi, je suis encore au papier. Voilà. Puis il faut bien faire marcher l'industrie aussi du papier quand même. Hein? Voilà, donc, alors je vous invite à ouvrir votre Bible. Vous voulez bien? Si vous l'avez, ouvrez-la. Si vous ne l'avez pas, écoutez et regardez. Alors Romains chapitre 12, les deux premiers versets. Romains chapitre 12, les deux premiers versets. Que dit Paul? Je vous exhorte donc, frères, mes sœurs, vous n'êtes pas oubliés. Hein, voyez le mot dans un sens élargi. Nous sommes des frères larges. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte logique, un culte agréé de Dieu. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire au contraire, transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. À qui ? À Dieu. On va un petit peu plus loin. Chapitre suivant, chapitre 13, toujours de l'Épître aux Romains, les versets 11 à 14. Ça pourrait presque former une suite, et ça forme une suite quelque part, ce qu'on va voir ensemble. Donc l'apôtre Paul dit ceci, Romains 13, verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Alléluia. Oh, il y a peu de amen. Bon, c'est pas grave, je continue. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons nettement, avec transparence, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Vous aimez l'Épître aux Romains ? C'est une épître qui, à travers l'histoire de l'Église, a une très grande importance. Tout simplement parce que cette épître, elle est importante dans la mesure où nous avons dans les 12 premiers chapitres, on va dire comme cela, les 12 premiers chapitres, nous avons tout ce qui concerne les fondements de la foi, ce sur quoi nous fondons notre foi. Et puis les chapitres suivants, à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin, nous voyons l'application dans notre vie de ce que l'apôtre Paul expose dans sa première partie, l'aspect doctrinal, sur quoi repose notre foi, je crois en qui, en quoi, pourquoi. Et il y a toute l'application pratique qui est abordée par l'apôtre Paul, et vraiment très pratique. Et dans le deuxième texte, deuxième paragraphe que nous avons lu, le chapitre 13, eh bien, ce paragraphe nous parle de temps difficile. Est-ce que tout va bien aujourd'hui dans notre monde ? Ça ne vous effraie pas ? Est-ce qu'il y a des lieux sécurisants ? Oui, la présence de notre Dieu. C'est le seul lieu sécurisant. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu en toute sécurité et nous sommes gardés par lui. Donc Romains 13 nous parle de temps dans lesquels nous sommes entrés. Paul parle des ténèbres qui s'épaississent et qui rendent le travail de témoin de plus en plus difficile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens qui se mêlent de plus en plus par le biais de lois du message de l'Évangile. Bientôt, on va nous imposer ce que l'on doit prêcher, mais ce que l'on doit apporter est fondé sur ce que Dieu dit à travers sa parole. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par la vérité. Amen. Amen. Le jour approche du retour de Jésus. Amen. Vous êtes dans cette espérance ? Jésus revient. De toute façon, que vous le vouliez ou non, il revient. Hein. Il l'a promis. Et ce qu'il a promis, il l'accomplit. Il a le pouvoir de le réaliser. Il est venu une première fois et nous savons pour quelle raison. Il va revenir une deuxième fois pour nous prendre avec lui, pour que nous soyons dans la gloire. Donc ce retour de Christ signifie la fin des tourments pour l'Église de Jésus-Christ. Fini les problèmes. Fini le port de lunettes. Alléluia. Oh, je dis amen, hein. Ah oui, oui. Plus de lunettes. On verra clairement. On verra clairement. Et les yeux de notre cœur seront là pour voir toute la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, fin des tourments pour l'Église de Jésus-Christ, parce qu'elle entrera dans la gloire et participera aux noces de l'agneau. J'ai vu que bientôt, vous allez y avoir des noces. Hein? Bon, désolé pour ceux qui vont se marier, mais là-haut, ce sera plus beau. Hein? Et puis, ce retour signifie aussi le jugement de l'humanité ayant choisi de demeurer dans le péché. Il y a ces deux aspects dans le retour de Jésus-Christ. Et cette perspective si proche du retour de Christ et des temps qui précèdent ce retour constitue, je crois, pour l'Église, mais aussi pour chacun d'entre nous, un stimulant pour notre consécration. Vous ne trouvez pas ? Vous avez posé la question à votre voisin, comment va ton âme ? Vous pouvez là lui poser la question, comment va ta consécration ? Où en es-tu dans ce domaine ? Allez-y, regardez votre voisin et posez-lui la question. Où en es-tu dans ta consécration? Et là, on arrive à Romains 12. Romains 12 nous présente la consécration comme étant la base de la vie selon Dieu, dans l'Église et dans ce monde. Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que je crois que nous sommes convaincus de cette réalité, Paul a écrit ce qu'il a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et elle est utile. Elle est utile parce que Dieu, par sa parole, nous rejoint là où nous en sommes. Et moi, je ne sais pas où tu en es ce matin. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie spirituelle. Je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec Dieu. Mais je sais une chose, c'est que Dieu, par sa parole, te rejoint ce matin. Amen. Et ce matin, il te parle. Et ce matin, il veut te conduire plus loin. Parce que Dieu n'est pas le Dieu du statu quo. Dieu n'est pas le Dieu du recul. C'est le Dieu qui nous conduit à aller de l'avant. Vous avez remarqué cela? Bon, il y a des gens qui vont un petit peu trop vite. Ils vont un peu trop vite de l'avant. Mais nous sommes invités à aller de l'avant. Aller de l'avant. Et lorsque la Bible nous parle de consécration, elle parle de mise à part pour Dieu. Mise à part par Dieu et pour Dieu. Pour Dieu. Et le peuple de croyants est un peuple composé d'hommes et de femmes ayant accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Est-ce que Christ est ton Seigneur? Est-ce que Christ est ton Sauveur? Est-ce que Christ est le tout de ta vie? Il y a eu un décrescendo dans les Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous réalisez cela? Enfants de Dieu. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Un peuple mis à part pour adorer Dieu. Mis à part pour le servir. Mis à part pour lui. Mis à part pour être dans sa présence. Mis à part pour rayonner dans ce monde où les ténèbres s'épaississent. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Waouh! Eh, mon frère, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une race élue. Soyez pas jaloux, vous aussi. Tout enfant de Dieu. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Nous avons été purifiés, sanctifiés par le sang de l'agneau. Amen. Un peuple acquis. Et à quel prix? À quel prix? Au prix du Fils de Dieu qui s'est fait homme. S'est fait homme. Lui qui était pleinement Dieu, il s'est fait homme. Il s'est fait homme pour prendre sur lui notre péché. Prendre sur lui le châtiment que méritaient nos péchés. Il a supporté le jugement à notre place. Il s'est acquis un peuple. Nous sommes ce peuple. Afin que nous vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et le mot miséricorde veut dire que Dieu est venu jusqu'à nous, et qu'il est intervenu pour que nous goûtions à son pardon. Nous sommes des gens libérés du péché, amen. Pardonnés à cause du sang de Jésus. Et c'est aussi le sens du mot église. Le mot église que nous aimons utiliser vient d'un terme grec qui veut dire être appelé d'un endroit pour entrer dans un autre endroit. C'est cela l'Église. On a été appelé par Dieu, convoqué par Dieu, d'un endroit où nous étions dans le péché pour entrer dans un autre endroit, dans sa présence et participer donc au rassemblement. Au rassemblement que Dieu a voulu. Parce que l'Église, c'est le rassemblement de ceux et celles qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui sont sortis d'une domination, celle du péché et des ténèbres, pour être mis à part, consacrés pour Christ, pour Dieu le Père. La consécration, c'est un aspect important de notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'elle est le baromètre avec lequel nous évaluons la profondeur de l'expérience chrétienne et le niveau de relation avec le Seigneur Jésus. Paul définit la consécration, comme nous l'avons lu, comme étant l'offrande de toute notre vie. Il parle du corps, mais offrir son corps, ça veut dire quoi littéralement? Ça veut dire s'offrir tout entier. parce que vous offrez tout ce qui est à l'intérieur. C'est cela en fait. Lorsque Paul dit « offrez vos corps en sacrifice vivant », il s'agit d'offrir tout ce que nous sommes, tout ce qui est dans nos poches, tout ce qui est dans notre cœur. On s'offre là totalement, c'est tout à Dieu, tout pour Dieu, tout avec Dieu. Et Paul définit donc la consécration comme étant l'offrande de toute notre vie au Seigneur, parce que dans notre cœur, un désir a pris naissance lorsque nous sommes venus à la foi en Jésus-Christ, celui de plaire à Christ, celui de ressembler à Christ. Il y a un vieux petit chant, de ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Est-ce que c'est votre espoir ? Est-ce que c'est votre désir ? Ressembler à Jésus-Christ. L'apôtre Paul le dira à plusieurs reprises, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Il le dira aux Corinthiens, il le dira aux Thessaloniciens, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » C'était là son ambition, c'était là son désir. Et il allait plus loin en disant aux Philippiens, « Je rejette tout ce qui est là en arrière, tout ce qui peut me retenir, afin de me porter vers ce qui est en avant, en fixant les regards sur celui qui m'a sauvé, sur celui qui peut tout dans ma vie. » Jésus. Amen. Il y a bien des choses qui embarrassent notre vie, non ? Trouvez pas ? Comme on dit dans le Sud, bien des bébés. Bien des choses qui sont là dans nos vies. Certains se trimballent avec des malles, d'autres avec des valises, d'autres avec des sacs à dos. Les choses qui sont là que nous voulons absolument porter alors que le Seigneur nous dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Décharge-toi sur moi. Et peut-être que quelqu'un est venu en ce lieu ce matin chargé par un fardeau, chargé par une situation, chargé par toutes sortes de pensées, peut-être par la peur. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous souffre du rejet. Mais tu as le choix ce matin. Soit tu restes avec ton fardeau, ou soit tu viens à Christ et tu dis, Seigneur, je ne peux plus le porter. Et je te le donne. Parce que je veux goûter à ta paix, parce que je veux goûter à ton repos. Je veux voir ta grâce être là dans ma vie. Et je veux que toute ma vie puisse ainsi t'être consacrée. La consécration, c'est un acte volontaire. C'est un acte de foi, c'est un acte volontaire. Le Seigneur ne nous force pas à nous consacrer à lui. Est-ce que le Seigneur a mis la corde à votre cou, tu vas sortir du péché ? Non ! À un moment donné, nous avons réalisé notre état de péché, nous avons réalisé que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et nous avons dans la foi répondu. Amen. C'est un acte volontaire. Et suivre Christ, c'est un acte volontaire. Non ? Votre vieille nature, vous l'avez laissée lors du baptême, vous l'avez laissée sous l'eau. Hein. Enfin, comme disait Martin Luther, j'ai bon chercher à la noyer, c'est qu'elle sait bien nager. Donc on a encore du travail. Dans notre engagement, dans notre consécration, la consécration, c'est un engagement de tous les instants. Et je crois qu'il est important de bien saisir ce qu'est la consécration et ce qu'elle implique. Et d'avoir à l'esprit l'exemple même de Jésus. Je dis cela parce que, à mes yeux, peut-être que je me trompe, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, on pourra en discuter dans le hall si vous voulez tout à l'heure, mais je crois que bien des lacunes dans la vie chrétienne, dans notre vie chrétienne, bien des faiblesses dans l'Église sont le résultat de problèmes de consécration. Nous sommes dans le ministère pastoral avec ma femme depuis 34 ans. Voilà, chose comme ça. On ne compte plus les années au bout d'un moment. Hein. Voilà. Donc vous avez compris que j'ai 18 ans révolus. Et j'ai constaté à travers ces années de ministère que bien des problèmes dans l'Église, bien des problèmes dans la vie chrétienne... avait pour source un problème dans la consécration. Examinez votre propre vie. Regardez. Prenez du recul par rapport à votre propre vie, peut-être les faiblesses que vous avez dans le passé, des faiblesses que vous avez encore aujourd'hui. Regardez un petit peu cela. Nous voyons par exemple l'église de Corinthe. J'aime beaucoup l'église de Corinthe, et vous ? Mais j'aurais pas voulu être le pasteur. Parce que tous les problèmes qu'une église peut rencontrer, cette église de Corinthe les a cumulés. Et il fallait vraiment pour Paul. Paul, sois là, vraiment. Et cette jeune église a rencontré donc un certain nombre de difficultés, divisions, conflits entre les membres. Il n'y a pas de conflit entre les membres hein, à Istres, non. Bah oui, on est tous nés de nouveau, hein. Donc il n'y a pas de conflit de personnalité, non. Ça n'existe pas. Ça existe ailleurs, mais pas à Istres. Terrain protégé. Mais cette jeune église donc rencontre des difficultés, justement. Il y a des conflits entre les membres. Il y a même de l'immoralité. Waouh ! Et j'en passe. Et puis, il y a des TTS. Vous connaissez les TTS ? Hein ? Les très, très spirituels. Hein ? Les supraspirituels. Qui se disent, on n'est pas concernés par tout ça, nous sommes de Christ. Wow ! Quel orgueil ! Et que fait Paul devant tous les problèmes des Corinthiens ? C'est ça qui est intéressant. Et ça nous parle, ça. Ça me parle. L'apôtre Paul, devant tous les problèmes que rencontrent les Corinthiens, il les invite à reconsidérer leur engagement, et il les invite à reconsidérer leur consécration en rapport avec Christ. Je ne veux pas savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà la référence. Voilà comment vous devez évaluer où vous en êtes par rapport à Christ. Et il ramène les Corinthiens à Christ. Et il fait la même chose avec les Galates. Parce que là aussi, waouh, j'aurais pas voulu être le président des églises de Galatie. Hein. Bon, je m'étonne que vous détourniez aussi promptement de l'évangile pour vous tourner vers un autre évangile. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend, Galate, insensé? Waouh. Et que fait Paul? Eh bien, il ramène ces gens à Christ. Il ramène ces gens à reconsidérer leur engagement et leur consécration par rapport à Christ. Et je crois que c'est bien de temps en temps d'évaluer où nous en sommes dans notre consécration, dans notre engagement avec Christ. Amen. Amen. Là, il n'y a plus d'amen, je vous ai perdu. Et il y a trois résultats principaux qui découlent de la consécration. Premièrement, elle permet à notre Dieu d'agir librement dans notre vie et de pouvoir nous utiliser pour sa gloire. Amen. Par la consécration, nous nous engageons librement, volontairement à laisser Dieu faire ce que lui a résolu de faire en nous pour que nous soyons ce qu'il veut que nous soyons et non pas ce que nous voulons être. Mais pour faire en nous ce qu'il veut que nous soyons et ainsi faire ce qu'il veut que nous fassions. Et à partir de là, c'est lui qui est glorifié. Amen. Deuxième résultat qui découle de la consécration, c'est l'efficacité dans le service. L'efficacité, aujourd'hui on utilise un mot, la productivité. Bon, on peut l'utiliser, allons-y. La productivité, l'efficacité dans le service dépend de notre consécration. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les hommes de Dieu, tous les hommes que Dieu a utilisés, ont tous été des personnes totalement consacrées. Elles ont eu des lacunes, elles ont eu des faiblesses, mais elles ont su aller plus loin, ne pas rester dans leurs faiblesses, ne pas rester dans leurs lacunes. On prend Abraham. On prend Moïse. Moïse, l'expert des excuses. Moi, quelquefois, on fait à la Moïse aussi, hein, devant ce que Dieu nous dit. Hein. On présente des excuses. Hein. Mais ce que j'aime dans le dialogue entre Moïse qui présente ses excuses et Dieu, c'est que Dieu a une réponse à chaque excuse. Alors dépose tes excuses au pied de la croix, parce que Dieu est celui qui n'a pas changé, et à chacune de tes excuses, Dieu a une réponse. On pourrait mettre Josué, on pourrait Caleb. Oh, Caleb. J'aime beaucoup Caleb. Amen. Et vous? Qui a 80 ans ici? Oh, on va faire le minimum. 80. Amen. Que vous soyez des Caleb, mes sœurs. Hein? Et dire, Seigneur, j'en veux encore. Caleb, 80 ans, qui dira à Josué, donne-moi cette montagne. Et sur cette montagne, il y avait des géants. Des géants. On en rencontre dans notre vie des géants. Bon, quelquefois, il y a des modes de terre que nous prenons pour des géants. Tout est une question de perspective. Vous avez remarqué? Parce que si vous êtes collé à la mode de terre, c'est sûr qu'elle est immense. Mais si vous prenez du recul, et c'est ce que Dieu fait par rapport aux problèmes qui sont les nôtres, il nous invite à prendre du recul et à voir les choses à leur juste valeur. Amen. Mais tous ces hommes que j'ai cités, il y en a bien d'autres. Dieu les a utilisés. Dieu les a utilisés de façon efficace. Ils ont porté un fruit glorieux. Amen. Amen. La consécration nous protège aussi contre le diable, contre le monde, le péché et ses conséquences. Parce que par la consécration, nous nous plaçons sur le terrain de Dieu. Et étant sur le terrain de Dieu, à partir de là, on peut voir les actions de l'ennemi, on peut anticiper et on peut ainsi être vainqueur. Souvent le problème, c'est qu'on sort du terrain de Dieu et là on est vulnérable. À un moment donné, c'était une mode un petit peu dans les églises, hein, le diable est sous mes pieds, il y avait des chansons, etc. Oh, c'était très beau comme chanson. Mais quand j'entendais ces chants, je me posais la question, c'est pas nous qui avons vaincu le diable, c'est Christ. C'est Christ. On est en train de placer, de détourner le focus, on le met sur l'homme. Non, mais c'est Christ qui a vaincu. C'est Christ le grand vainqueur. Et celui qui est en Christ, celui qui se réfugie en Christ, est vainqueur. Il entre dans cette victoire de Christ. Amen. Amen. On continue, ça va ? Vous me suivez ? Paul nous invite à réfléchir sur la qualité de notre consécration. Tout simplement parce qu'elle nous appartient. Il y a la part de Dieu et il y a notre part. Et par rapport à notre part, ce n'est pas Dieu qui fera les choses à notre place. La part qui nous revient, c'est à nous de l'accomplir. Pour la part que nous ne pouvons pas accomplir, oui, Dieu est avec nous. Et Dieu nous aide. Et Dieu fait tout le nécessaire. C'est la raison pour laquelle on revient au chapitre 13, à ce que nous avons lu. Dans Romains 13, verset 12, verset 13, verset 14, il est dit, « C'est l'heure de vous réveiller. De vous réveiller enfin du sommeil. » Deuxièmement, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Troisièmement, revêtons les armes de lumière. Quatrièmement, marchons honnêtement dans la transparence. Cinquièmement, revêtons-nous de Christ. Et il donne des éléments qui sont là, des éléments qui nous permettent d'évaluer notre consécration, d'évaluer là où nous en sommes. Ce sont cinq propositions en rapport avec la qualité de notre consécration. On les voit rapidement. Se réveiller, c'est ce que vous avez fait ce matin. Plus ou moins facilement. Hein? Vous avez commencé par ouvrir un œil, le deuxième a peiné à s'ouvrir, hein? Et au bout d'une heure, vous l'avez ouvert. Ce qui fait que vous avez les deux yeux ouverts. Hein? Se réveiller, c'est sortir d'un sommeil, d'un ralentissement des fonctions vitales. Le sommeil spirituel, c'est un état d'éloignement progressif du Seigneur et de sa parole, qui est produit par un laisser-aller dans nos convictions, un laisser-aller dans notre vécu. Ça vous dit quelque chose, ça? Vous l'avez vécu, ça? Non? Je suis le seul à avoir vécu? Allez, entre nous, est-ce que vous êtes toujours penché pour ouvrir la Bible? Est-ce que vous êtes toujours passionné dans la louange? Il n'y a pas des fois, oh! Alors bien souvent, l'excuse, c'est le musicien n'était pas dans le coup. Non? La prédication vous a semblé fade? Ça vous arrive? Mince, notre pasteur n'avait pas la bonne cravate, c'est celle où il n'y a pas l'onction. Oui, ça nous arrive cela. Et qu'est-ce que l'on fait dans cet état-là, dans cette situation-là? On a le choix. Soit on se booste, ou soit on se laisse aller. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pas venu comme ça d'un seul coup, hein? Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, et puis plus du tout. C'est arrivé progressivement. Cette église d'Éphèse s'est progressivement éloignée du Seigneur sans le réaliser, sans évaluer là où elle en était. Et là, Odyssée, puisses-tu être froid brouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Je trouve cette parole terrible, terrible, terrible. D'autant plus qu'il est dit, je frappe, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. À qui le Seigneur s'adresse? Moi, j'ai toujours été saisi par cette parole. Il s'adresse à son Église. Ça veut dire que le Seigneur est à la porte de son église, il n'est pas dans son église. Et l'église de Laodicée ne le réalise pas. Waouh ! Vous imaginez le truc ? Seigneur n'est plus chez lui. Il a été mis à la porte par un comportement. Puisses-tu être froid bouillant, mais parce que tu es tiède. Tu es tiède. Il y a eu un ralentissement de tes fonctions vitales qui ont fait que ta relation avec le Seigneur est devenue insipide. Ce qui fait que ton engagement, ta consécration en ont pris un petit coup. Un petit coup. Et fonction vitale, c'est notre communion avec la parole de Dieu. C'est la vérité. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses pour comprendre et mettre en pratique sa parole. Amen. La prière individuelle, la prière communautaire, la louange, l'adoration, l'amour du prochain, le service pour Dieu. Moi, je préfère le service avec Dieu. Parce qu'on peut travailler pour Dieu sans avoir Dieu avec nous. Donc, je préfère service avec Dieu. Parce qu'on est sûr qu'il est là. Amen. Nous sommes sans cesse en danger de nous assoupir. Et le ralentissement des fonctions vitales guette tout croyant, même le plus expérimenté. Je me souviens de ce témoignage d'un frère qui est maintenant auprès du Seigneur. Il était missionnaire et nous avons eu la joie de travailler plusieurs années avec lui et c'était vraiment un bonheur. Et ce frère nous a fait part d'une expérience qu'il a vécue. Il était tout jeune serviteur, il débutait, ils étaient à deux, deux stagiaires dans une église et ils vivaient au même endroit. Et ensemble, ils priaient, ils jeûnaient. Et puis, son collègue a eu du succès, entre guillemets, du succès dans le service. Et les choses belles qui se produisaient à travers le ministère de son collègue. Et puis, un jour, il lui dit, mais tu n'es plus avec moi dans la prière, tu ne jeûnes plus. La réponse qu'il a eue de son collègue a été, mais puisque ça marche, j'ai plus besoin de ça. Terrible, hein ? Terrible. Et c'était le début de la dégringolade. Il s'est disqualifié du service de Dieu. Terrible. Pour entrer dans des voies, terrible. Terrible. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et nous avons de nombreux appels, nombreuses recommandations. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Comment va ton cœur ce matin ? À quel rythme bat-il ? Est-ce qu'il bat au rythme du Seigneur ce matin ? Comment va ton cœur ? Comment va ta relation avec la parole de Dieu ? Comment va ta relation avec tes frères et sœurs ? Comment va ta relation avec ton entourage ? Est-ce que tu loues ? Parce qu'il faut louer, parce qu'il faut au moins que le pasteur entende ma voix, sinon le lundi matin à 8h, j'ai sa visite à la maison. Ou est-ce que tu loues parce que tu as cette passion pour lui, tu as envie de le louer ? Il est bon de se poser les questions. Comment sortir du sommeil ? En acceptant déjà la réalité que nous sommes un peu assoupis et que nous avons besoin de nous réveiller. Et puis compter sur l'aide du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, n'est pas sans ressources. Amen. Pour faire renaître en nous les dispositions de cœur et d'esprit, raviver ces fonctions vitales et nous permettre d'aller de l'avant. Amen. Deuxième point, se dépouiller. Ça signifie se défaire, abandonner, rejeter. Et Paul parle des œuvres des ténèbres. Ce qu'il décrit au verset 13. Des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. J'ai été étonné de voir cela parce que c'est quand même à une église qu'il s'adresse. C'est à une église. Hein. C'est aux chrétiens de Rome à qui il adresse cette lettre. Et dans d'autres épîtres, l'apôtre Paul parle de se dépouiller des œuvres de la chair, Galates 5,16. De se dépouiller des œuvres mortes, c'est-à-dire où la foi est absente. Il n'y a pas la foi. Ça sent 100% l'humain, 100% la chair. Et puis des œuvres du péché. Et le but du dépouillement, c'est de ne pas alourdir et ralentir sa marche dans la foi. C'est pour ne pas sombrer non plus. C'est pour pouvoir avancer, pour pouvoir poursuivre dans l'engagement que nous avons pris. Qui n'est pas l'engagement de trois matins, mais c'est l'engagement de toute une vie. Parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Celui-là seul. C'est pas « j'ai été », c'est « je suis ». Amen. Je suis là dans cette persévérance. Je suis là vigilant sur ma vie. Je suis là vigilant sur les œuvres qui émanent de ma vie. Et j'évalue les choses à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière aussi de mes frères et sœurs. Quelquefois, on n'ose pas se dire les choses. Vous avez remarqué cela ? Un jour, une sœur dans l'église n'a pas osé me dire, il y avait une situation que je ne connaissais pas, je l'ignorais. Donc, et puis, elle a saisi la prière en disant, « Seigneur, tu vois le péché dans l'église ?» Waouh ! Ah, j'étais impressionné par cette prière. Voilà. Impressionné dans un certain sens. Hein. Voilà. Alors, je suis allé voir la sœur et je lui ai dit, « Attendez, là, votre prière, il y a un problème. » « Oui, vous ne savez pas, il y a telle et telle situation. » Donc, c'est à vous de la régler. Ben, vous auriez pu venir me voir directement et me dire, « Voilà, Laurent, je ne sais pas si tu es au courant, mais là, il y a une situation qui nécessite ton intervention. » Elle m'a répondu, « Mais c'est à vous de le voir. » Oh, ben mince. Est-ce que vous voyez les choses dans le marc de café ? Moi, j'y vois que du noir. Eh oui. C'est vrai que le Seigneur est capable de révéler certaines situations, ça je le crois, pour l'avoir vécu. Mais j'ai dit à la sœur, il n'est pas écrit dans Matthieu 18. Hein? Si ton frère a péché, va et reprends-le, c'est entre toi et lui. Si ton frère t'écoute, amen, on en reste là, alléluia. S'il ne t'écoute pas, tu prends deux ou trois témoins. Donc il y a un cheminement et c'était l'occasion un petit peu d'exposer les choses à la sœur afin de ne plus entendre de telles prières dans l'église. Oui, nous avons besoin les uns des autres. J'aime beaucoup le psaume 133 et vous aussi, et je crois que ça a été cité ce matin dans une louange. Le psaume 133 dit « Oh, qu'il est bon pour des frères et sœurs d'être ensemble. » Parce que c'est là que Dieu envoie l'onction du Saint-Esprit. Parce que c'est là que Dieu déverse la vie et la vie pour l'éternité. Amen. Mais dans ce rassemblement, nous sommes responsables des uns des autres. Là, tu peux regarder à nouveau ton frère, ta sœur et lui dire « Je suis responsable de la santé de ton âme. » Vous n'osez pas ? Mais regardez-le quand même, votre voisin ou votre voisine. Si c'est votre femme, regardez-la dans les yeux. Et oui, nous sommes responsables les uns des autres. Amen. Et on peut ainsi s'évaluer. Oh frère, j'ai vu que tu ne priais plus depuis 3 semaines. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as un souci ? Écoute, on va prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Paul continue, revêtir les armes de lumière. Oui, parce que le retour de Christ approche, marquera une victoire définitive, alléluia, et effective de la lumière sur les ténèbres. Mais avant cela, il y a une lutte à mener, pas n'importe comment. Hein. Il ne s'agit pas de partir la fleur au fusil et pas savoir où on va. Non, ce n'est pas cela. Il y a une lutte à mener, elle est réelle. Et il s'agit de se dépouiller premièrement de tout ce qui est inutile dans nos vies, parce que l'adversaire sait utiliser les faiblesses de nos vies pour nous atteindre. Vous avez remarqué cela ? Lorsque je suis venu à la foi en Jésus-Christ, la première chose qui est venue à mon cœur, va te réconcilier avec ton Père. Et c'était une lutte, je vous assure. Non, mais c'est lui qui nous a abandonnés. C'est lui qui est parti. Moi, je suis la victime. Là, Seigneur, tu te trompes, là. Trompe. Et puis là, mon pasteur, quelle idée il a eu d'intervenir. Il a dit la même chose que Dieu. Eh oui. Il m'a dit, Laurent, tu n'iras pas plus loin que là où tu es si tu ne vas pas te réconcilier avec ton Père. Et c'était un combat, c'était une lutte. Mais j'ai réalisé que si je ne faisais pas les choses, je n'irais pas plus loin. Et alors, j'étais une proie facile pour l'ennemi de nos âmes. Voilà. Qu'il n'y ait pas de racine d'amertume. Pourquoi ? Parce que c'est un terrain fertile pour l'adversaire. Alléluia. Et lui va savoir s'engouffrer et faire la destruction, puisqu'il est appelé le destructeur, la destruction dans nos vies. Et puis, il s'agit pour nous, eh bien, de prendre ces armes de lumière qui sont là décrites dans Éphésiens 6,14, la vérité pour ceinture. Hein ? Ça nous parle de Christ qui est la vérité, mais aussi de la parole. La cuirasse de la justice, cette mise en pratique de ce qui est écrit. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. le zèle, la passion, hein, le bouclier de la foi, cette confiance en Dieu. Augmente-nous la foi, alléluia. Le casque du salut, ça c'est précieux. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Puis on peut ajouter la prière, la supplication, parce que l'apôtre Paul ajoute ces deux éléments. Et puis j'ajouterai aussi la vigilance et la persévérance. Troisième point, marcher honnêtement. Marcher dans la transparence. Marcher dans la transparence, c'est-à-dire marcher en conformité avec ce que Dieu dit à travers sa parole. Vous savez, le problème souvent que l'on a, ce n'est pas avec les textes difficiles, la Bible. On n'a pas de problème avec les textes qu'on ne comprend pas. Le problème, c'est souvent avec les textes que nous comprenons, parce qu'on les comprend trop bien. Et ça nous engage. Non, vous n'avez pas remarqué cela ? Moi, je n'ai pas de problème avec Genèse 6, quand il est question des géants, etc. Je n'ai pas de souci. Je ne comprends pas, mais je n'ai pas de souci. Mais là, je comprends trop bien ce que dit l'apôtre Paul. Marchez honnêtement. Ah non, non, et si je m'ouvre à mon frère, je risque d'être déçu. Non, ça va dans la relation entre vous? Bon, je ne veux pas mettre la zizanie. Hein. Mais oui, on a peur bien souvent de s'ouvrir à l'autre. Quelqu'un un jour est venu me voir. Je ne vous dirai pas tout, je vous dis simplement un petit peu, parce que si je vous dissous, je risque d'être déçu. Bon, je dis à la personne, le mieux c'est de rien dire. Mais c'est finalement ouverte et j'ai compris pourquoi. Elle avait tellement été blessée, qu'elle avait besoin simplement d'une oreille attentive et d'être accompagnée dans la prière et dans la foi. Une autre version concernant ce passage, marchez honnêtement, dit « Conduisez-vous avec honnêteté devant Dieu et devant les frères et sœurs et devant le monde. » Et je crois que c'est la mise en pratique de la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit qui sont là pour nous soutenir dans cette voie. Amen. On peut blesser, on peut être blessé dans la relation. Mais si on est blessé, c'est parce qu'on s'est laissé blesser. Hein. Quand on examine les choses, ce qui nous blesse, c'est ce que nous avons laissé nous blesser? Non? Et quelquefois, si, c'est des impressions. J'ai l'impression que, ouh, la façon dont Joël me regarde, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est, oh là là. Et, non, pas remarqué, bien souvent, il y a comme ça des impressions. Des impressions. C'est des impressions qui conduisent à des conclusions, mais en général, ce n'est jamais les bonnes. On tape à côté. Donc, pour cela, il est bon d'être honnête et transparent les uns avec les autres. Amen. Christ était transparent avec nous. Transparent. Transparent avec ses disciples. Vous avez remarqué cela? C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné de voir la relation de Jésus avec ses disciples. Il les a choisis pour être avec lui. Donc, il était totalement transparent avec eux. Waouh! Seigneur, aide-nous parce que dans ce domaine, on a des progrès à faire. Revêtir Christ, dernier élément. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ est notre justification. Parce que Christ est notre sanctification. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Amen. Et pour ne pas donner prise à l'adversaire, pour ne pas être confondu lors du retour de Christ, pour être vainqueur, il faut être en Christ. Amen. En Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le frère qui a conduit le chant l'a martelé ce matin, vous avez entendu? Hein, c'était vraiment son truc ce matin, Christ en moi. Hein, amen. Amen. Il a eu raison de le marteler en introduction des chants, en introduction de la louange. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Parce que j'ai revêti Christ. J'ai revêti Christ. Conclusion. Donc la qualité de notre consécration passe par ces différents niveaux. Se réveiller. T'es réveillé ce matin? Vous avez compris que je parle du réveil spirituel. Se dépouiller. T'es-tu dépouillé de tout ce qui alourdit ta vie? se revêtir à la fois des armes de lumière et de Christ. Où Christ en est-il dans ta vie ? Est-il sur le strapontin ou est-ce qu'il est sur le trône ? Si tu penses qu'il est sur le strapontin, tu te trompes. Il n'y a personne. S'il y a autre chose sur le trône de ton cœur, Christ alors n'y est plus. Il n'y a pas de partage avec Christ. C'est tout ou rien. Vous avez remarqué cela ? Il veut toute la place. Il est en droit d'avoir toute la place en raison de qui il est, en raison de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il fera. Et puis se conduire honnêtement. Et je dirais qu'une consécration de qualité, consécration telle que l'apôtre Paul nous la présente, mais conduit à cette libre action du Saint-Esprit dans notre vie et dans l'Église. Amen. Amen. Je suis sûr que dans les rayons de prière, je ne suis pas avec vous, mais je sais ce que vous dites. Seigneur, on veut vivre un réveil. Seigneur, remplis du Saint-Esprit ce lieu. Remplis-nous, remplis l'Église. Je me trompe ? Je ne me trompe pas. Mais la consécration, consécration de qualité telle que l'apôtre Paul nous la présente, permet justement cette libre activité du Saint-Esprit, parce qu'à partir de là, il n'y a pas d'entrave. Et puis, une consécration de qualité conduit à un service avec Dieu ayant une réelle efficacité. Amen. Et nous conduisons plus loin que là où nous en sommes. Et à voir des choses que Dieu a préparées d'avance que nous ne voyons pas encore. Et puis, ça nous conduit à avoir un témoignage qui glorifie le Seigneur, aussi bien dans l'église que dans la rue. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Et nous voulons être de ceux qui la retiennent, de ceux qui la vivent, et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce qui a été apporté là simplement, Seigneur. Et je crois que tu veux agir dans les cœurs ce matin, dans les vies. Je crois que ce matin, tu veux la faire une œuvre dans le cœur de chacun, comme dans mon cœur, Seigneur, parce que tu n'en as pas fini avec moi, comme tu n'en as pas fini avec chacun d'entre nous, Seigneur, parce que nous ne sommes pas encore rentrés pleinement dans cette consécration que tu attends. Nous ne sommes pas entrés pleinement dans cette vie de l'esprit, dans cette dynamique de l'esprit. Nous ne sommes pas encore entrés pleinement dans ces œuvres que tu as préparé d'avance, mais nous voulons y entrer. Alors Seigneur, je te prie ce matin de nous aider chacun pour notre part à évaluer là où nous en sommes avec toi, dans notre relation avec toi, dans notre relation avec ta parole, dans notre relation avec l'Église, dans notre relation les uns avec les autres, les uns par rapport aux autres, et que nous puissions faire tout ce qu'il faut, Seigneur, pour franchir un pas supplémentaire, puis après ce pas supplémentaire, un autre pas, afin d'aller toujours plus loin et de voir cette libre action du Saint-Esprit, de voir, Seigneur, ta grâce nous utiliser avec plénitude. Oui, Seigneur, avoir une efficacité dans le service que tu nous confies, Seigneur, dans le témoignage que tu nous donnes. Merci, Père, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Si vous le voulez bien, on reste dans le recueillement. Baisse nos têtes. J'ai à cœur de le faire ce matin. On a parlé de la consécration, on a parlé d'un certain nombre de choses. Je ne sais pas ce que vous avez retenu dans votre cœur de tout cela, mais je vous invite à relire ces textes, Romains 12, Romains 13, et à réfléchir. Mais peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui est là avec ses souffrances, il y a quelqu'un qui est là avec ses valises, quelqu'un qui est là avec des entraves dans sa marche avec le Seigneur. Alors on ne veut pas que vous en restiez là ce matin, mais on veut vraiment que vous puissiez entrer dans cette liberté qu'il y a en Jésus-Christ. Si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Réellement libres. Et je crois que ce matin, il y a une âme qui a vraiment besoin de se confier dans le Seigneur, de s'en remettre dans le Seigneur, parce qu'il y a des choses qu'elle trimballe dans sa vie depuis déjà des années. Et le Seigneur, ce matin, l'invite à se débarrasser de ces choses, à les déposer au pied du Seigneur et à lui dire, « Cela, je l'abandonne. Je ne veux plus m'y accrocher. Je te l'abandonne. » Alléluia. Et si tel est votre désir ce matin, si tel est votre désir, bien je vous invite à votre place à vous lever. À vous lever. Faites cet acte de foi ce matin. Il y a des pas de foi que le Seigneur réclame parfois dans nos vies. Des prises de position qui sont là nécessaires pour voir sa grâce être là manifestée. Alléluia. Amen, amen. On est là dans le recueillement. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur des regards du voisin, de la voisine. Peut-être que le voisin ou la voisine a autant besoin que vous, mais n'ose pas se lever. On est là, devant Dieu, devant celui qui peut tout. On est là devant celui qui a pu nous dire qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Et ce matin, on veut le saisir. Ce matin, on veut le voir s'accomplir. Alléluia. Vous êtes là, debout. Et dans votre cœur, vous dites, Seigneur, tout ça, je te le remets. Tout ce qui embarrasse ma vie, tout ce qui embarrasse mon service, tout ce qui embarrasse ma consécration, tout ce qui est obstacle entre toi et moi, tout ce qui est obstacle entre toi et mes frères et sœurs, tout cela, je le dépose. Tout ça, je le dépose. Quel que soit le problème, quel que soit le nom que vous donnez à ce qui est là, puissiez-vous le déposer. Le déposer dans la foi. Et dire, Seigneur, je ne veux pas le reprendre. Par contre, ce que je veux prendre ce matin, c'est ta grâce. Ta grâce pour me renouveler. Ta grâce pour me fortifier. Ta grâce pour me conduire à aller de l'avant. Seigneur, tu vois ces âmes qui sont là debout devant toi. Seigneur, je te les recommande. Elles sont debout, Seigneur, manifestant, exprimant leur foi, déposant, Seigneur, le fardeau qui est le leur, déposant la situation qui est là, embarrassant leur vie. Oui, Seigneur, elles déposent ce fardeau-là devant toi. C'est à tes pieds qu'elles déposent ce fardeau. Seigneur, avec une certaine crainte, avec des peurs aussi, avec quand sera-t-il demain? Mais Seigneur, de tout cela, tu t'en charges. Et toi, tu déverses dans ces cœurs ta paix. Tu déverses dans ces cœurs ton repos, ta grâce. Oui, Seigneur. Et tu donnes à ces vies de pouvoir repartir léger avec toi. Amen. Dans une nouvelle relation. Oui, d'entrer avec toi dans une nouvelle relation. Oui, Seigneur. D'entrer dans une nouvelle relation aussi et compréhension de ta parole. Et dans un service aussi renouvelé. Amen. Merci, Père, de ce que tu fais là maintenant. Parce que je crois que tu libères. Ce matin, je crois, Seigneur, que tu réponds à la foi et que tu confirmes ta parole. Nous sommes là dans le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, oui, qui est invoqué ce matin. Alors merci, Seigneur, pour ta grâce. Et comme nous l'avons chanté, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Amen. Remplis ces cœurs, remplis ces vies. Alléluia, du Saint-Esprit ce matin. Amen, 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 amen.